Bonsoir. La BPI est ravie de vous accueillir ce soir pour la troisième date du cycle Reportage État des lieux, qui a donc été conçu par Caroline Reynaud, programmatrice à la BPI, et donc Christine Manaz de la BPI. Ce cycle se décline en trois volets. Un premier volet de débat en petite salle, comme ce soir avec nos invités. Un deuxième volet qui consiste en des grands entretiens avec un reporter qui revient sur sa carrière. Et puis un troisième volet, directement en salle de lecture, un profession reporter, qui est en fait un dialogue d'un reporter qui expose son métier avec le public. Donc ce soir, le thème de la rencontre, c'est le nouvel âge d'or du reportage. Et donc nous avons confié la modération de cette soirée à Raphaël Garrigos, donc, qui est cofondateur du site d'information Les Jours, et qui est également donc, le site qui est le partenaire de ce cycle. Il a convié à côté de lui Dominique Khalifa, qui est historien, Judith Pérignon, journaliste, et puis Patrick de Saint-Exupéry, donc, qui est rédacteur en chef de la Revue 21 et qui travaille aujourd'hui même à la sortie de l'Hebdo, hein, nouvelle parution. Alors encore deux mots pour vous dire que les autres dates du cycle, vous pourrez les retrouver sur notre site web. À retenir d'ores et déjà la date du 22 janvier avec la grande reporter radio Claude Guibal. Et puis aussi, vous pourrez re-regarder en fait, hein, ce débat sur notre site internet. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je laisse les rênes à Raphaël. Merci.
Alors, bonsoir d'abord. Je vais commencer en faisant un peu de promotion pour Les Jours parce que je pense que tout le monde ne nous connaît pas et aussi parce que c'est un rapport direct avec ce qu'on a appelé ce retour de l'âge d'or du reportage. Donc Les Jours, c'est un site d'information qui fait pas toute l'actualité mais qui s'empare de sujets dans l'actualité et qui les suit profondément. On appelle ça des obsessions et c'est mis en scène comme des séries télé, ce qui parlera certainement à Dominique sur la façon de ressusciter le feuilleton, cette vieille recette de presse. Et cette promo n'est pas totalement vaine, puisque quand on a voulu lancer Les Jours, on s'est dit qu'il fallait que ce soit du reportage, parce que c'est ça notre métier finalement. C'est tout bêtement d'aller voir nous-mêmes ce qui se passe quelque part. Et pour moi, le reportage finalement, ça tient en c'est juste cette définition-là, aller voir nous-mêmes ce qui se passe et rapporter, être des témoins. Je vais vous représenter peut-être un peu plus longuement nos amis du soir. Donc Dominique Khalifa, qui est historien du crime. C'est pas mal, historien du crime. C'est la classe. Et donc historien aussi forcément de la presse, parce que c'est un partenaire fidèle du crime. Judith Pérignon, que j'ai connue dans une autre vie à Libération, qui est reporter un peu tous azimuts finalement, dans le présent, dans le passé. Elle a écrit notamment ce qui pourrait s'apparenter à un reportage, mais qu'en est pas un livre sur la mort de Victor Hugo, et aussi sur la première nuit de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, on peut dire, qui était au Fouquet's, en l'occurrence, la nuit au Fouquet's. Et je voulais que Judith soit là parce que c'est une autre façon de faire du journalisme, je trouve, qui s'approche de la littérature. Et donc Patrick de Saint-Exupéry, qui du grand reportage en a fait pas mal, à peu près toutes les zones où ça allait mal dans le monde, et qui est désormais depuis quelques années un peu de l'autre côté du grand reportage, à savoir relecteur et promoteur, on va dire, du grand reportage, avec donc la Revue 21 qu'il a créée, et Hebdo, qui s'apprête à lancer en janvier prochain, un hebdomadaire. Donc. Moi, j'ai l'impression, justement, Patrick, qu'avec 21, cet âge d'or du reportage, qui avait peut-être un peu disparu pendant un temps, c'est un peu vous qui avait fait renaître ce reportage. Pourquoi est-ce que le reportage est devenu une bonne matière de journalisme? Pourquoi est-ce qu'on a assisté à ce renouveau?
D'abord, j'aimerais bien. Non, la première réponse, c'est j'aimerais bien, mais je suis pas tout à fait sûr qu'on puisse le formuler comme ça, dans le sens où la revue 21, donc, qui est consacrée au grand reportage, est née il y a 10 ans. Et pourquoi elle est née il y a 10 ans? C'était le constat un peu que nous avions dressé, hein, Laurent Beccaria et moi-même, puisque nous sommes deux cofondateurs. C'était qu'il y avait une sorte un peu de déséquilibre dans l'univers de l'information, où il y a 10 ans était apparu énormément d'outils technologiques qui nous offraient la possibilité d'être en connexion presque permanente avec l'information qui tombait en déluge. Et donc il y avait une accélération absolument incroyable qui s'est produite, hein, pas il y a 10 ans, hein, qui remonte à un petit peu avant, mais du flot et du rythme de l'information. Et dans ce mouvement-là qui s'était opéré, ce qu'il nous semblait, c'est qu'il y avait un déséquilibre qui était arrivé entre le temps extrêmement court, l'actualité du temps extrêmement court, et le temps plus long qui est celui du reportage. Et en fait, 21, on ne l'a pas formulé comme ça à l'époque, hein, parce que lorsqu'on fait les choses, on les fait par intuition, pas parce qu'on y croit, pas parce que pour un certain nombre de raisons, mais les mots viennent parfois après. Mais après, lorsque je regarde un petit peu ce qu'a marqué 21, c'est un rééquilibrage, ou en tout cas une envie de rééquilibrer l'univers de l'information entre des temps qui sont l'un et l'autre légitime, à savoir le temps du news, le temps de l'actualité, celle qui déferle, celle qui tombe jour après jour, et un temps un peu plus lointain de ce flot-là, qui est celui du reportage, qui est celui du récit et de la narration. Et 21 est venu redonner un petit peu d'équilibre dans cet univers-là qui était, à notre sens, extrêmement déséquilibré. Et c'est là la marque. De là à dire que 21 marque le retour d'un âge d'or du reportage, j'aimerais bien, hein, et je ne demande qu'à le croire, hein, mais je ne suis pas sûr que ça puisse être formulé de cette manière aussi lapidaire. Ça a certainement, en revanche, permis de réhabiliter un petit peu le reportage dans le sens où il y a eu ce rééquilibrage qui s'est opéré. L'univers de l'information n'était plus que celui du news. Il redevenait possible d'envisager le reportage. Et donc, on a vu après un certain nombre de rééquilibrages qui se sont opérés dans la presse, mais quelque part la démarche, hein, fondamentale, c'était pas contre. On fait jamais quelque chose contre. Donc c'était pas contre le news, c'était pas contre l'actualité. C'était cette volonté de rééquilibrer un peu les choses. Pourquoi ? Bah parce que nous vivons tous sur des rythmes différents. Il y a des moments où nous avons envie, nous avons besoin intuitivement et pour des raisons variées et chacun selon sa personnalité d'être en connexion avec le monde, donc de nous intéresser à un certain nombre de choses au sens du news, de ce qui va arriver. Et puis il y a aussi d'autres moments où nous avons besoin d'un peu de prise de distance pour retrouver des repères, pour pouvoir nous représenter le monde et nous représenter dans le monde. Et ça, c'est ce qu'offre le reportage, c'est ce qu'offre la narration et c'est ce que n'offre pas le news. Le news n'offre pas cela. Donc, nous voyons, enfin, à mon sens, c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Et c'est ces logiques-là, ce rééquilibrage-là, qu'à mon sens, a peut-être plutôt marqué 21, plutôt qu'une réhabilitation d'un âge d'or.
D'autant, Dominique, que cet âge d'or, je crois que je l'ai un petit peu inventé pour cette conférence, ce retour de cet âge d'or, il a toujours existé, en fait.
Un âge d'or, par principe, c'est une fiction, hein. On pense effectivement que... Alors donc, effectivement, si vous parlez de retour d'âge d'or, c'est bien qu'on a dans l'esprit qu'il y aurait eu un autre âge d'or. Et effectivement, on a ça dans l'esprit pour parler, je ne sais pas, de ce qu'a été le grand reportage au début du XXe. C'est un peu ça, les références qu'on a. L'idée que dans les années 1920-1930, il y aurait eu un moment où, avec des figures tutélaires, Kessel, Londres, etc., le grand reportage aurait été une sorte de moment magique dans la presse française et internationale. Alors oui et non, hein, c'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a eu, c'est même plus large que ça, depuis le début du XXe siècle, il y a eu effectivement un moment où des figures, des journalistes parfois connus, parfois moins connus, se lançaient dans des reportages qui ont effectivement beaucoup troublé et fasciné les contemporains. Alors, maintenant, est-ce que ça a vraiment été un âge d'or ? Je ne crois pas. Hein. C'était un moment difficile. Vous savez, c'est intéressant ce qu'il vient de dire Patrick de Saint-Exupéry, parce qu'il y a un peu la même idée. La presse, si vous voulez, la presse vit très mal la Grande Guerre, pour des raisons évidentes. Les journaux disent n'importe quoi. Hein, les énormités. Et donc, les journaux quotidiens, qui étaient à l'époque vraiment des puissances, des grandes autorités, sont sortis de la Première Guerre mondiale avec un grand discrédit. Et donc, il fallait trouver quelque chose qui redonne un peu de la légitimité au quotidien. Et par ailleurs, vous évoquiez tout à l'heure le roman feuilleton, qui a été la grande chose, l'une des grandes dynamiques du journalisme dans la deuxième partie du XIXe siècle. Là aussi, il commençait à fatiguer un peu, à nous raconter toujours les mêmes histoires sentimentales ou policières. Donc, à beaucoup d'égards, il y avait besoin de mettre un peu de sang neuf, de quelque chose de neuf là-dedans. Et c'est le grand reportage qu'il a été. C'était un peu le chevalier blanc de la presse qui allait redonner une fonction de rédemptrice au journal. C'est vrai que ça marche un peu. Mais en même temps, ce n'est pas grand-chose. Hein. Les historiens qui ont travaillé sur le grand reportage, enfin le grand et le petit d'ailleurs...
Justement, comment est-ce que vous différenciez le grand reportage du petit ?
C'est essentiellement le rapport au terrain d'enquête. Hein. Le petit reportage, c'était quelque chose qu'on connaissait depuis la fin du 19e. C'était essentiellement les faits diversiers. Hein, aller faire les commissariats, la tournée des commissariats, les affaires de crime, les accidents, le petit fait divers. Le grand reporter... Ça s'adossait plus effectivement au double imaginaire du voyage lointain, c'est quelque chose qu'il a conservé aujourd'hui encore, du voyage lointain, que ce soit le voyage d'exploration à la Stanley qui part sur les traces de Livingstone, ou bien du récit de guerre. Hein. C'est quand même avec la guerre, hein, et notamment les guerres comme la guerre de Crimée, les guerres balkaniques, les grandes guerres de la seconde moitié du 19e, que les correspondances de presse trouvent. Donc le grand, ce qui différenciait le grand, c'était qu'il partait vers un terrain exotique et lointain. Cela dit, l'exotisme, on sait aussi qu'on peut le trouver, dans les bas-fonds ou dans l'exotisme social, etc. Mais c'est quand même pas grand-chose. Hein. Les historiens qui ont travaillé, enfin, en termes de nombre, il y a environ 3000 journalistes en France dans l'entre-deux-guerres. Il y a environ 3000 gens qui ont une... Enfin, vous savez, quand on crée la carte de presse en 1938, on en délivre un peu plus de 3000. Il y a environ 3000 journalistes en France. Sur ces 3000 journalistes, le nombre des reporters, c'est 50. Donc vous voyez, Âge d'or, il y a quelques figures extrêmement célèbres qui vont d'ailleurs pas mal gagner leur vie, qui vont être sollicitées, mais c'est quand même un tout petit univers. On ressasse toujours un peu les mêmes figures, hein, Londres, Kessel, Béraud, mais les autres, la plupart des autres, on les a complètement oubliés. Et par ailleurs, ce n'était pas évident de faire du grand reportage dans les années 20-30. Ils n'étaient pas très, très bien payés. Hein, derrière quelques grandes figures au salaire plus convenable, il y avait quand même une masse de journalistes qui tentaient de s'en sortir. Ce n'était pas si évident. Avec des reportages qui marquaient, alors bien sûr, on a retenu les grands trucs, Kessel avec les esclaves, Londres au bagne, à Biribi ou dans les asiles de fous, les interviews difficiles. Vous savez, on va interviewer Hitler ou Mussolini, les interviews qu'on dit impossibles, ou à l'étranger, les exploits du style « je veux faire le tour du monde plus vite que Phileas Fogg », les reportages impossibles, notamment en undercover, en allant, Nellie Bly qui va passer des journées dans un asile de fous, etc. Mais derrière quelques grandes figures comme ça, on est dans un univers qui est relativement précaire, où les fonctions sont avec un turnover assez difficile. Il n'y a pas un panthéon immense de grands reporters. Et l'âge d'or cache quand même beaucoup de précarité, beaucoup de misère et beaucoup de difficultés. Mais un des points qui a contribué, c'est pour ça que c'était intéressant que vous parliez avec Judith de la littérature, un des points qui a contribué à donner le sentiment qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a eu à ce moment-là, et ça ouvre une filiation qui dure toujours, qu'on trouve aussi bien avec les reporters d'aujourd'hui, mais avec aussi quelque chose comme 21 et les autres supports qui jouent cette carte-là, qui est qu'il y a un espace un peu poreux, un espace un peu intermédiaire qui se fait entre le reportage et la littérature, qui fait que des éditeurs, Albin Michel en tête, mais beaucoup d'autres, hein, Grasset, Gallimard dans les années 20, vont être tentés de publier en volume les reportages, hein, les textes de Londres, de Kessel, etc., apparaissent dans des collections, en 23, Albin Michel crée la collection Les Grands Reportages. Hein, et puis, donc, les reporters vont se sentir tirés par une pulsion littéraire, et en même temps, en sens inverse, on va voir des auteurs, des romanciers, hein, Macorlan, Sandrars, Soupeau, Cocteau, etc., être, eux, tenté par le reportage, Hein, en disant moi aussi j'y vais, et on a un truc qui va pas durer tellement longtemps, hein, une espèce de moment où le reportage apparaît comme un quasi genre littéraire.
Hein. Alors justement, ouais. Justement Judith, bonne perche, merci. Justement Judith, toi donc tu as travaillé à Libération pendant quelques années, et tu t'es retrouvée après avoir quitté Libération à écrire des livres, mais qui évoquait du journalisme pour moi. Quelle frontière, toi, tu fais entre le journalisme et la littérature ? Ou est-ce que tu voulais faire du journalisme et ça n'en était pas ou
C'est très poreux. Moi, quand j'ai quitté Libé il y a 10 ans et j'ai décidé de pas intégrer d'autres rédactions, j'avais envie justement de vivre de l'un et de l'autre. Donc je continue le journalisme tout en écrivant ou des romans ou des choses avec des gens. Et parfois, un roman va naître d'un reportage. Le roman, il offre au journaliste ce que le cadre de l'article lui interdit quand même un peu. C'est-à-dire que dans un roman, justement, vous allez donner une profondeur de champ, vous allez tout à coup basculer 50 ans en arrière, éclairer l'histoire de vos personnages. Ce que vous ne pouvez pas vraiment faire, vous pouvez faire des incises dans un article, mais vous êtes tenu par la longueur, par... Même si vous avez une liberté d'écriture dans le reportage, que ce soit à Libé, à 21, votre patte, elle existe déjà. Un journaliste qui écrit du reportage, il est déjà dans une démarche d'écriture, en tout cas. Pas forcément d'écrivain, mais d'écriture. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'envisage. Et les journaux avec lesquels j'ai collaboré ont toujours été de ce côté-là. Mais la littérature, ouais, enfin, le roman, en tout cas... Il permet de, je sais pas, d'épaissir, de donner un peu de 3D, quoi, un peu de troisième dimension, de creuser. Les personnes que vous interviewez, elles sont là, vous les faites vivre, vous les décrivez. Et dans le roman, tout à coup, vous allez leur donner une histoire encore plus longue, un visage encore plus marqué. Je sais pas, vous vous attachez plus longtemps, vous y passez plus de temps. Donc c'est très poreux. Et parfois, j'étais en reportage, et j'ai écrit des reportages, et j'ai entendu des choses qui m'ont donné l'idée d'un roman. Mais d'ailleurs, ce que disait Patrick tout à l'heure sur la genèse de 21, et justement ce news, moi j'ai commencé à Libé dans les années 90, j'ai commencé, Internet n'existait pas, après Internet est arrivé, je me souviens de Serge Julie nous disant « Bientôt, les gens liront l'actu sur le téléphone », et à l'époque, je peux vous dire que on l'imaginait pas. Donc voilà, tout s'est raccourci, y compris dans des journaux comme Libé qui faisaient des bons reportages. Et si on a fait la nuit du Fouquet, par exemple sur l'élection de Sarkozy, c'est parce qu'elle avait été ratée par les journaux, tout simplement, parce qu'ils font du news, parce qu'en plus la communication politique, gouvernementale impose à ces news une espèce de rapidité permanente qui fait que les rédactions ne prennent pas le temps de réfléchir, de s'arrêter, d'approfondir. Et on s'est dit, là, je l'ai fait avec Ariane Chemin, donc journaliste au Monde, cette nuit-là, avec tous les symboles et tous les signaux qu'envoyait ce Fouquet sur les Champs-Élysées, ben, ça n'a pas été raconté. Notre livre n'était pas ne fourmillait pas de scoop, mais on a raconté les lieux, les invités, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils se disaient. Et on plantait le décor des futures années Sarkozy. Mais normalement, ça aurait dû être dans le journal, en fait.
Et vous avez essayé de le vendre à un journal ?
Non, parce que c'est un éditeur qui nous l'a proposé. Justement, parce que le news, quand on en a parlé, Sarko était déjà... C'était trop tard. C'était trop tard, mais ça aurait dû être en longueur. C'était un petit livre, on a même grossi la police, mais c'était un long reportage.
Et justement, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, une histoire comme ça, n'importe quel journal la prendrait tout de suite.
C'est vrai qu'aujourd'hui,
le Monde développe beaucoup de longues histoires, que ce soit dans le quotidien ou dans M, son magazine.
C'est vrai parce que justement, on est allé trop loin dans le news. 21 est né de ça, mais y compris dans les journaux plus traditionnels, on a tout à coup senti qu'on était en train d'abandonner ce qu'on savait faire de mieux. Je veux dire, le grand reportage, il y en a eu à Libé, au Monde, enfin voilà. Et c'est ce qu'on faisait de mieux, parce que c'est ce que ces journaux-là, les vieux journaux, ont à offrir de mieux par rapport au flux d'infos des chaînes télé. Et donc, il y a eu effectivement, de nouveau, la longueur est revenue dans les journaux et on peut faire des longues enquêtes dans le Monde de 20-25 000 signes, ce qui avait disparu pendant effectivement certaines années.
Juste un petit mot, ça je trouve ça super intéressant, ce truc avec le rapport entre l'écriture du reportage et l'écriture littéraire. Mais c'est presque consubstantiel parce que le reporter, effectivement, Il y a une structure nécessairement double dans n'importe quel reportage. Le reporter, effectivement, va rendre compte et va restituer un événement, un fait, une situation, mais il va forcément et toujours se mettre en scène restituant le fait, la situation, etc. Et donc, sa posture auctoriale est nécessaire. Et donc, à partir de là, la différence avec un romancier est très faible, hein, puisqu'il est nécessairement en train, forcément, d'exhiber l'échafaudage narratif à partir duquel il travaille. À cet égard, effectivement, on va forcément vers ce que vous faites.
Mais je pense pas tout journaliste ne fait pas un romancier. Hein,
c'est... Ah oui, non, mais tout bon reporter pourrait le faire, quoi.
Justement, sur la mise en avant du reporter, vous la remontez à très très loin, je crois, à la guerre de Crimée.
Les premiers, c'est les correspondants du Times qui les premiers partent sur des terrains, hein, et vont effectivement rendre compte du terrain en ayant une posture d'observation participante d'une certaine manière. Ils sont là, ils voient et donc ils se mettent en scène. C'est regardez, j'y suis, je regarde et je vais vous rendre compte de ce que je vois. C'est pour ça que cette posture-là, elle est quand même d'une certaine manière une posture d'auteur, forcément, par rapport à d'autres types de récits journalistiques, la chronique ou l'interview, etc., etc., où le journaliste est forcément plus dissimulé derrière la nature de son texte. Là, quand vous êtes des reporters, vous êtes là, vous êtes dans votre texte.
Ah oui, moi je crois beaucoup à la subjectivité. On parle toujours de l'objectivité du journaliste. Moi je crois beaucoup à la subjectivité du journaliste, ça c'est clair. Personne, on a tous, chaque journaliste a une histoire, un patrimoine, un imaginaire, des origines. Et on regarde le monde et on va vers des sujets, parfois inconsciemment, mais qui répondent à des questions qu'on s'est sûrement posées bien avant de commencer à travailler, à être journaliste.
Et comment sous, Patrick, cette subjectivité du journaliste, vous dites « je » dans 21. Là, je prenais un extrait d'un reportage qui commence comme ça. À la sortie de la ville d'Agadez, une simple chaîne mollement tendue entre deux piquets marque le début de la route vers le désert du Ténéré, la Libye, qui est un reportage paru dans le dernier numéro de 21. Et il y a cette, je trouve qu'on a déjà pas mal de subjectivité là-dedans, dans ce mollement tendu qui dit de cette passoire qu'est le Nord Niger, où des passeurs font aller des migrants, font partir des migrants vers la mort bien souvent. Elle est où comment elle s'exprime, la subjectivité?
La subjectivité ne passe pas forcément par le jeu. Enfin, le reportage ne passe pas. L'outil du jeu peut être tout à fait admissible dans le reportage, mais ce n'est pas une nécessité. En revanche, ce qui est extrêmement important, c'est que la position de l'auteur soit claire. C'est d'où parle-t-il ? Voilà, c'est ça. Et le reportage, c'est parvenir à signifier cette position de l'auteur. Et lorsqu'on parle de la position de l'auteur, immédiatement, les choses deviennent très claires. Parce que lorsque l'auteur décrit quelqu'un, qu'importe, je vais vous décrire à vous, Raphaël, je dirais par exemple votre costume noir, mais je ne parlerai pas du fait que vous soyez chauve, mais j'aurais estimé en toute honnêteté que votre costume noir est ce qui vous restitue le mieux, plus que votre crâne chauve. Ça sera un choix tout à fait subjectif, mais honnête. Et là, cette clé est extrêmement importante, c'est-à-dire que dans l'idée d'objectivité, il y a l'idée un peu d'une restitution à la manière d'une photo, comme si la photo était plus honnête qu'un texte. Mais la photo choisit toujours aussi un cadre. Et la photo triche aussi avec les choses comme un texte peut tricher. Enfin, tricher au sens, c'est pas de la triche, mais il y a des choix qui sont faits au travers d'un texte, comme au travers d'une photo, etc. Et ces choix-là sont portés par celui qui les assume, c'est-à-dire la position de l'auteur. On en revient en permanence là-dessus. Donc la question de l'objectivité a toujours été une question que j'ai personnellement trouvée biaisée dans la presse, parce que l'objectivité réelle, au sens strict et mathématique du terme, c'est une minute pour Hitler, une minute pour les Juifs. Ça fait de vous quelqu'un d'objectif? Parce que vous aurez donné autant de temps de parole à l'un et à l'autre? C'est ça l'objectivité? Est-ce qu'il faut vraiment raisonner selon des critères de ce type-là? Je ne crois pas. En revanche, la subjectivité assumée au sens de l'honnêteté, c'est ce qui est au cœur du reportage et c'est ce que permet le reportage. Et c'est là où on arrive à des représentations du monde, à être capable, au travers de l'outil du reportage, de donner à représenter le monde au travers des gens qui sont rencontrés. Vous mentionniez tout à l'heure, Dominique, la nécessité qu'a éprouvée la presse au lendemain de la Grande Guerre de se refaire une légitimité, Et c'était parfaitement juste. Enfin, factuellement, au lendemain de la Grande Guerre, la presse a un discrédit absolument incroyable, quoi. C'était une opération de propagande. On a bourré le crâne, hein. C'est vraiment les mots de l'époque, et tout le monde en est très conscient. Et l'outil reportage qui apparaît à ce moment-là, de quoi il est question ? De retisser une légitimité, parce que vous revenez au contact à la base. Et non seulement vous revenez au contact au travers du terrain, mais en plus vous dressez un cadre qui vous oblige à une restitution du terrain. Et donc vous n'êtes pas tellement, à mon sens, en position d'écrivain, vous vous retrouvez à la position d'intercesseur, de celui qui a le privilège d'être là, pour raconter à d'autres qui ne seront jamais là. Et cette position d'intercesseur, elle est extrêmement compliquée à assumer, elle est extrêmement compliquée à mettre en place, et pour bien y parvenir, il faut recourir, comme le disait Judith, aux outils de l'écriture. Et donc c'est là où on est dans un espèce d'univers qui se met en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et le reportage à la base est d'abord l'outil qui permet de reposer une légitimité de la presse, et cette légitimité-là aujourd'hui est toujours extrêmement importante, et c'est là où l'outil reportage qui avait tendance pendant un certain nombre d'années à être un peu évincé, à un peu disparaître au profit d'une fascination de la nouvelle qui tombait en déluge et des nouveaux outils qui arrivaient, qui sont des outils excellents, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais l'outil reportage avait tendance à disparaître et lorsqu'il est relégitimé, et c'est aussi cette volonté de relégitimer la position qu'a la presse, la possibilité qu'a la presse d'être au contact d'eux. Et c'est extrêmement important, être au contact d'eux, parce que l'outil reportage le permet et c'est la base de la légitimité.
Justement, c'est effectivement un cycle qui est en train de se refaire. J'ai l'impression qu'on assiste aujourd'hui à une crise de la presse certainement sans précédent. Oui. qui est sans précédent. Et donc, il y a eu cette espèce de dictature du news, comme tu dis, Patrick, de l'instantanéité, de l'actualité, d'avoir une espèce de vue pour les journalistes totalement panoptique, et de l'apparition des journaux gratuits. Je pense aussi à dû faire pas mal de mal à la presse payante. Et ce renouveau-là de la presse, cette nouvelle singularité de la presse, passe aussi par le reportage, justement. C'est une nouvelle façon de se relégitimer, comme tu dis, oui.
De se relégitimer et puis de retrouver le contact du lecteur, de l'auditeur, du téléspectateur. Vous n'êtes pas dans des débats au 7e ciel, vous êtes sur le terrain avec le reportage. Vous êtes quelque part, vous parlez de quelque part, vous êtes obligé aussi de... Vous avez plein de nuances parce que vous parlez de gens, vous parlez de la vie des gens, donc vous êtes obligé d'être nuancé. Et nous sommes très loin de cet univers quand même qui est parfois celui qui s'impose aujourd'hui, des débats en noir contre blanc, des affirmations qui sont posées ou outrancières, quelles que soient ces affirmations, hein, qu'on parle de celles de Trump ou de celles d'une personne dans la rue qui peut avoir des débats qui sont organisés par moments à la télé ou à la radio, où souvent on a des personnalités qui sont extrêmement clivantes. Il s'agit en gros d'opposer le noir contre le blanc. Le reportage évite tout ça. Et le deuxième point aussi du reportage, c'est que le reportage ne parle que de réel, il est aussi borné par le réel. Donc après, lorsqu'on essaye de discuter un reportage, et ça je crois que ça a dû nous arriver à plusieurs reprises, il arrive parfois que des gens viennent mettre en doute tel propos entendu dans un reportage ou telle situation. Moi, personnellement, j'ai vu des gens poser des théories comme quoi ça n'avait jamais pu exister, que tout ça était une construction. Et vous êtes reporter, vous savez que... Ben non, les mots ont été prononcés, la situation était vraie, etc. Ça vous donne une assise. Et c'est quelque chose d'incroyable d'avoir une assise. On ne se rend pas compte de la force que représente l'assise, parce que vous avez été quelque part, parce que vous avez eu les pieds dans la boue, dans le terrain, parce que les mots qui ont été dits, vous les avez entendus et vous les répercutez. Vous n'êtes pas dans une construction, vous êtes dans une restitution. Et ça, c'est... Si vous ôtez ça, en fait, c'est ce paratonnerre-là, tout devient possible. Donc plus rien n'est possible. Pas parce que ça devient un débat. Enfin voilà, tout peut être interprété, tout peut être... Mais le reportage donne cette assise à la base, et c'est sa force, sa singularité, et c'est la force de cet outil-là qui n'est pas forcément le seul que doit privilégier la presse. Il y a plein d'autres outils, mais qui doit être intégré dans les logiques de presse aujourd'hui.
C'est intéressant.
Et c'est au cœur de ce que le journalisme peut donner de meilleur. Il y a quand même cette idée, si on remonte aux logiques du journalisme, c'est le principe de la représentation. C'est-à-dire, il faut, et c'est ce que faisaient les donner à voir le monde. Donner le monde à voir aux autres. Il y a une très belle formule de Gaston Leroux que j'aime bien, qui a été un grand reporter et l'inventeur de Rouletabille, un grand reporter de fiction, qui est « Je suis la lorgnette du monde hein. ». Donner à voir. Et donner à voir, ça suppose effectivement cette présence sur le terrain et cette capacité, effectivement, subjective, bien sûr, mais qui ne l'est pas, cette capacité, effectivement, à donner à voir.
Mais je trouve d'ailleurs, par rapport à la gravure, à l'illustration... Quand on est en reportage, voilà, moi j'ai un carnet, un crayon, et je m'assois et je prends des notes, hein, et puis j'écoute ce qu'on me dit, je pose des questions, mais la posture du reporter, là le décor a un peu changé depuis, mais elle a pas tellement changé en fait, hein, et c'est là qu'on engrange. Alors après on a chez nous des carnets de notes parfois illisibles parce qu'on écrit vite, parce qu'on écoute les gens qui parlent vite. En tout cas pour ce qui est de la presse écrite, c'est ça. Et moi, je trouve que le reportage, c'est aller vers des gens qui n'ont pas d'attaché de presse, qui n'ont pas accès à vous. Donc, des gens qu'on n'entend pas. Moi, j'ai été aussi beaucoup longtemps à Libé, journaliste politique. Donc, effectivement, j'ai beaucoup parlé aux politiques, aux institutions. Mais ceux-là, ils ont un lien facile et naturel avec la presse. Et ils ont pignon sur rue. C'est open bar pour eux dans les médias. Donc, le reportage, c'est plutôt aller vers ceux qui n'ont pas cet accès à la parole médiatique. Et qui vous oblige effectivement beaucoup plus, parce qu'il faut les protéger, ces gens-là. Il faut les protéger. Ils ne savent pas comment on parle aux médias, ils ne savent pas comment on parle aux journalistes.
Comment on les protège, justement, quand on est journaliste ?
Mais moi, je me souviens de portraits que j'ai faits dans la dernière page de Libé, où des fois, on faisait des portraits à partir de... quand il y avait des vagues de licenciements, des choses comme ça. On faisait aussi ce qu'on appelait, nous, les anonymes. Qui rentraient dans l'actualité par le biais de l'actualité économique et sociale ou politique, mais on les appelait les anonymes. Et parfois, ces gens-là, ils vous lâchaient toute leur histoire, toute leur vie, et je les filtrais parce que je ne me rendais pas compte que tout ça raconté dans le journal pouvait aussi les exposer beaucoup trop. Donc, oui, les protéger, quoi. Ça faisait partie, effectivement. On leur doit quelque chose de ce que Patrick appelle notre honnêteté. Quoi.
Alors que ce qu'on reproche, la première chose qu'on reproche aux journalistes, c'est de ne pas être honnête, justement, de ne pas être objectif, comme tu le disais, Patrick, de ne pas être neutre. Alors que justement, quand on est sur un terrain ou un théâtre, comme on dit parfois pour des journalistes ou des zones de guerre, c'est justement un œil, juste un œil et rien d'autre.
Moi, j'ai toujours été un peu gêné par ce genre de discussion, enfin, que par moments elle ait lieu très bien, mais j'ai souvent l'impression un peu d'un système. Et pour illustrer, je vais juste prendre un ou deux exemples. Je me souviens dans une situation, qu'importe quand, où, etc., un photographe qui prend la photo de quelqu'un en train d'être assassiné pendant une guerre civile, et le gars est en caleçon, et voilà, ça se passe sous ses yeux, et clac, il appuie sur le bouton. Il n'a pas le temps de réfléchir, hein, c'est clac-clac. Enfin, c'est, voilà. Et je me souviens, pendant trois jours, hein, c'était il y a un certain temps, il n'y avait pas encore les réseaux, mais qu'importe. Et pendant trois jours, discussion avec ce photographe, est-ce que je dois envoyer cette photo à Paris, à partir de là, elle allait circuler dans le monde entier, sachant que c'est la photo de quelqu'un qui est en train d'être assassiné sous vos yeux. Et pendant trois jours, vraiment en train de s'interroger. Et puis, grande discussion, enfin voilà, tranquillement, enfin, c'était dans le cadre d'une guerre civile, puis au bout de trois jours, il l'envoie. Mais après, vraiment, c'est une décision lourde à prendre, difficile, et il l'envoie. Et immédiatement, il se fait bâcher. Ce photographe avait été un ogre, enfin, je ne vais pas faire, c'était un monstre, il aurait pu intervenir, etc. Et cette discussion-là venait de Paris, et je trouvais ça fascinant, parce que personne ne posait la question. Personne ne se renseignait. C'était d'entrée de jeu, boum, clac, voilà, ça tombait. C'était alors que lorsqu'on était sur le terrain, lorsqu'on voyait comment les choses se passaient, cette photo avait toute légitimité. Elle donnait vraiment l'image de ce qui était en train de se passer. Et le fait qu'elle ait été considérée comme insupportable par un certain nombre de gens, pourquoi pas ? Mais au point d'aller mettre en cause la démarche ou l'honnêteté de celui qui l'avait fait sur des biais qui étaient absolument invraisemblables, c'était quelque chose qui est d'incroyable, d'incroyable. Donc il y a aussi ce côté-là. C'est un exercice qui fonctionne à deux, le reportage. Même à trois. Il y a le terrain, il y a celui qui est l'intermédiaire, l'intercesseur, et il y a le lecteur aussi, enfin, celui qui est au bout de la chaîne. Et là, si à un moment donné, la chaîne de confiance est rompue, s'il y a quelque part l'idée qui se développe d'un discrédit, etc., de gens que l'on met en, presque de manière presque systématique, allez, je pousse un peu à l'extrême, en cause, on est en train de casser tous les outils. Et c'est ça qui se produit quand même parfois de plus en plus régulièrement. L'autre point aussi qui me venait à l'esprit, c'est les limites du reportage. Mais les limites du reportage vous apprennent une chose, c'est la force du reportage. Et les limites du reportage, elles sont toutes simples, c'est qu'il est des situations très rares, exceptionnelles, dans lesquelles il n'est plus de mots ou plus de témoignages. Et je vous assure que lorsqu'il n'est plus de mots ou plus de témoignages, vous vous rendez compte à quel point le poids des mots et le poids des témoignages est essentiel, fondamental à la compréhension du monde. Et là, je parle un peu, par exemple, antithétique, mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le reportage, c'est un mode de restitution des mots, des témoignages, des situations qui est au plus juste, au plus près, et qui est encore parfois inexact, et qui peut y avoir encore des choses, mais que la prétention n'est pas d'être une photo, la prétention est d'être dans une honnête justesse. Et cette honnête justesse permet, et je reviens à ce que vous disiez là tout à l'heure, à chacun, si l'on accepte cela, et si le journaliste le fait dans une logique d'honnête justesse, à chacun de se forger une représentation du monde et de se représenter également dans le monde. Et là, c'est un acte, à mon sens, fondamental.
Je voudrais juste rebondir sur un point. Je pense effectivement qu'on a toujours... Enfin, la critique du reportage est consubstantielle à l'invention du reportage. On a toujours dit, oui, mais il y a des choses bidonnées, faux. Et il y en a toujours eu. Hein, évidemment, mais le reportage bidonné qui existe, il se voit très vite et il est dénoncé très vite et il tient pas la route 5 minutes. J'avais pas mal bossé à un moment sur les univers des bagnes coloniaux, des bagnes militaires, etc. Et par exemple, certains hebdo de l'entre-deux-guerres comme Police Magazine, etc., etc. C'était un peu spécialisé pour les reportages, y compris photographiques, mais ça se voyait comme le nez au milieu de la figure et c'était relativement vite dénoncé. Et cette affaire-là, elle ne tient pas la route effectivement longtemps face à cet équilibre avec les lecteurs et les journaux qui savent effectivement reconstruire du vrai. Mais quand même, je voudrais juste qu'on regarde un tout petit peu plus précisément l'image-là. Oui, allez-y.
Non, 30 secondes, je suis désolé, mais je pense que vous avez raison, mais je pense que dans l'univers du reportage, moi j'ai connu des bidonnages, hein, il y a 10, 20 ans, 30 ans, enfin j'en ai connu des bidonnages, j'en ai vu à l'œuvre, mais je sais qu'aujourd'hui, je n'en vois plus. Non, voilà, c'est...
Parce qu'ils ne sont pas suffisamment crédibles. Hein,
je vois la qualité... Qui a incroyablement augmenté. Et ça, c'est un contre-coup de l'univers qui s'est mis en place aussi, du fait que l'on sache beaucoup sur beaucoup. Mais la qualité du niveau des reportages, en termes de crédibilité, de travail, a réellement augmenté. Nous n'avons plus aujourd'hui la possibilité, comme il y a 5 ans ou 10 ans, d'avoir un Pulitzer sur la base d'un bidonnage. Ce qui s'est encore produit avec Janet Cook, c'était il y a 10 ans. Je crois, une petite dizaine d'années où il y avait un Pulitzer bidonné. Aujourd'hui, je pense que c'est une hypothèse qui est de moins en moins vraisemblable. Bon, il reste toujours une petite marge, mais là, on pouvait être à 10% de possibilité de bidonnage. Aujourd'hui, on est passé à 1%, 0,1%, je n'en sais rien. Mais la possibilité de bidonnage est de moins en moins exacte aujourd'hui.
Et puis de plus en plus dénoncée, et puis de plus en plus évidente. Quoi.
Ouais. En même temps, moi, si je veux faire un reportage bidon sur... cet attentat raté à Manhattan aujourd'hui, je peux l'écrire très très vite. En un quart d'heure, je savais qu'il y avait un attentat. Un quart d'heure après, j'avais la vidéo de cet homme qui explose. En regardant un peu avec Google Street View autour, je peux très bien camper le paysage et avec les tweets des gens autour, raconter, faire un très beau reportage bidonné, je pense, sur cette histoire-là. Est-ce que au-delà de cette question un peu rhétorique, j'avoue, est-ce que on a eu pendant un temps un débat sur tous journalistes que les nouvelles technologies permettent aujourd'hui d'être tous journalistes. Qu'est-ce qui va faire la spécificité du reporter professionnel? Peut-être Judith, toi qui es...
Le reporter, il va savoir mettre, donner du sens et mettre ça en scène. Je veux dire, un tweet est un tweet. On ne peut pas tout additionner et tout à coup avoir... La même personne qui ferait, par exemple, qui serait à Manhattan et qui ferait, je ne sais pas, une petite ambiance sur les trottoirs de Manhattan ou là où ça s'est passé, mais cette même personne qui interviewerait les gens, les témoins, la police, je ne sais pas, ça ne donnerait pas la même chose que cette addition de tous les tweets, parce qu'au fond, il y aurait toujours ce reporter, cette unicité du regard qui, après, envelopperait l'événement et lui donnerait une vraie forme, quoi.
Alors, c'est quoi le regard que tu prends quand tu racontes l'enterrement de Victor Hugo? Je crois que tu étais pas né.
Tu crois? le regard que je prends, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tant de gens se déplacent à l'enterrement d'un poète, qui, entre parenthèses, n'avait rien à voir avec le dernier enterrement sur les Champs-Élysées. Tout parallèle est interdit.
Il y avait moins de gens pour Victor Hugo.
Non, mais je suis allée dans les archives de la police, dans les archives de la presse, dans les archives de la famille.
Une forme de reportage dans le passé, oui.
Voilà, mais je n'avais pas l'impression de faire un reportage. C'est-à-dire, moi, j'ai fait une recherche et après, je voulais donner à cet événement, raconter ces quelques jours de façon littéraire. Et en même temps, je voulais rester être au ras du trottoir parce que je ne voulais pas avoir le surplomb de l'historien, justement. Moi, je me suis intéressée aux personnages qui n'intéressent pas les historiens, puisque les historiens vont retenir les grands discours, vont retenir... Mais en tout cas, voilà, moi, j'adorais les rapports de police de l'agent qui gardait la maison du cadavre, c'est un petit fonctionnaire, les réunions secrètes des militants anarchistes. J'étais à hauteur, j'essayais d'être au ras du bitume, en fait, alors que je ne réfléchissais pas à ce qu'on dirait de l'événement 50 ans après. J'essayais d'être avec les gens, de savoir s'ils iraient à l'enterrement de Victor Hugo, à quel bout de trottoir ils se mettraient, pourquoi ils iraient, pourquoi ils ne pourraient pas y aller. Et c'est ça, je pense, au fond, qui a donné ce côté reportage.
Dominique, vous vouliez nous parler justement de cette illustration.
En fait, je n'avais pas pris le temps de bien la regarder. Elle est assez extraordinaire, si on y pense bien. Donc, ça, carnet d'un reporter, donc on est manifestement en 14-18. Hein, et vous voyez notre reporter qui est là, carrément sur le front, qui prend des notes. C'est juste impossible. Hein, si vous voulez. Vous savez, à cette époque-là, les journaux et les journalistes, ils ne pouvaient pas y aller. Ils étaient tributaires, malheureusement, des nouvelles officielles que l'état-major donnait. Et d'ailleurs, ils s'en sont beaucoup plaints. Hein, les bons journalistes en 14-18 ont dit on ne peut pas bosser, on ne peut pas faire notre travail, on a juste un bureau de la presse. Et puis, donc là, c'est déjà une fiction absolue. Et puis, si vous regardez bien, je n'avais pas fait attention, si vous regardez bien le nom de l'auteur, j'ai Le Rouge. En fait, c'est Gustave Le Rouge, qui n'a rien d'un journaliste, c'est un poète symboliste, qui est par la suite est devenu également romancier, un romancier populaire. C'est le mystérieux docteur Cornelius, c'est lui, vous voyez. Donc on est dans une espèce là de fiction absolue de l'âge d'or du reportage, avec un bonhomme qui n'est absolument pas un reporter, mais qui met en scène l'héroïsme reporter dans une situation qui est absolument impossible. C'est très beau à cet égard, quoi.
J'aurais peut-être voulu qu'on aborde un instant un côté qui... Moi, je trouve important dans le reportage aujourd'hui, et vous l'abordiez tout à l'heure sur la précarité du reporter. Un reportage, ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. Et j'ai l'impression qu'on assiste, enfin, je sais qu'on assiste aujourd'hui à un tournant dans la presse qui fait que toute la presse se met à devenir payante alors qu'elle a elle a cédé pendant un bon moment aux sirènes publicitaires. Et il y a eu un mouvement qui a été... adopté d'abord par Mediapart, sous les huées d'abord. Hein. Tout le monde se moquait de Mediapart qui faisait un journal payant en ligne. Résultat, on en est à 150 000 abonnés, je crois, aujourd'hui. Et ça va très bien pour eux, merci. Et aujourd'hui, c'est les quotidiens, tous les grands quotidiens abordent ce mouvement du payant qui va avec de la qualité et qui s'accompagne forcément de reportages en plus, cette donnée du reportage.
Le reportage, c'est du temps. Enfin, c'est le temps passé. Un reportage, c'est pas deux jours. Hein. Ou alors, c'est quelque chose de très très court et à vivre comme ça. Mais donc, le temps passé, que ce soit en France, hein, ou à l'étranger, Voilà, ça se paye. Alors, si on est tout seul, comme un simple reporter écrit, c'est une personne. Si moi, je fais de la radio, on est deux, trois. Voilà, c'est trois personnes qu'il faut déplacer une dizaine de jours ou plus. Voilà, ça, le temps est fondamental dans l'écriture, même dans l'écriture du reportage, parce qu'il y a le temps de rencontre avec les gens, puis il y a le temps de maturation. Et si on veut que les reporters travaillent bien, il ne faut pas leur demander de... Il faut leur laisser ce temps de bien faire, quoi.
Oui, le temps, c'est la clé. C'est une clé que vous accordez aussi beaucoup, j'imagine, à 21.
Je suis un peu surpris par la question, à vrai dire, en fait. Parce que pour moi, le journalisme, ça a de la valeur. C'est juste ça. Et je n'ai jamais compris ces notions de gratuité, de ces promesses-là, qui m'ont toujours paru totalement incohérentes sur le fond, dans le sens où il ne s'agit pas de priver d'accès à l'information. De toute manière, on allume sa radio, c'est gratuit, donc... Je ne vois pas où est la question. Enfin, il n'y a pas de question là-dessus. Mais maintenant, le journalisme, c'est du travail. Et le travail a de la valeur. Moi, quand je vais acheter mon pain, je suis capable de dire à mon boulanger, ton pain est bon, ton pain n'est pas bon. Je peux le dire. Mais jamais je ne penserai être capable de me mettre à la place du boulanger pour faire du pain. Ce n'est pas parce que je peux émettre une opinion sûre, quelle qu'elle soit, fondée ou non, qu'importe, que j'envisage, pour autant, de me mettre à leur place. Donc là, j'aborde de front deux choses. Sur le côté, la promesse qui a été faite à un moment que je n'ai jamais comprise non plus, tout ce journaliste, je n'y crois pas, sincèrement, je n'y crois pas. Ce sont des fausses promesses, à mon sens. Le journalisme, c'est du travail, c'est un cadre d'exercice, enfin, c'est un certain nombre de choses qui s'acquièrent avec le temps. Moi, j'ai toujours vu ce travail-là comme un travail d'artisan. Le gars qui travaille sa chaussure et puis qui n'est jamais content de sa chaussure, parce qu'il y a toujours un défaut. Il y a toujours un défaut. C'est un travail d'artisan, c'est des choses qui s'acquièrent avec le temps, c'est une expérience. Voilà, c'est du travail, comme le boulanger, c'est du travail pour parvenir à faire du bon pain. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, le côté... donc, ça a de la valeur. C'est aussi simple que ça. Et la promesse de la gratuité, c'est la destruction de la valeur. Ça veut dire que ça n'a plus de valeur, donc ça ne vaut plus. Et quand ça ne vaut plus, c'est rien. C'est rien. C'est du bruit. C'est du capharnaüm. On peut tout dire puisque ça n'a plus de valeur. Ça ne vaut plus. Tout est possible. Voilà. Quand je dis ça, ce n'est pas du tout une démarche de cimetière des éléphants. C'est juste une évidence. Et je crois qu'on a du mal à revenir aux évidences. Le travail, ça a de la valeur. Quel que soit ce travail-là, que ce soit celui d'un reporter, d'un journaliste, etc. Une entreprise de presse a besoin d'un équilibre économique. Personne ne fait du journalisme pour devenir riche, mais une entreprise de presse, quelle qu'elle soit et quelle que soit sa fonction et sa légitimité, elle a besoin d'un équilibre économique. Après, je parlais de la notion de valeur. Après, la promesse de participatif ou de collaboratif, je n'y crois pas non plus. Je n'y crois pas. J'ai peut-être tort. Hein. Quand je dis ça, c'est un sentiment tout à fait personnel, mais je pense que les mots ont été biaisés. Je pense que le propre du journalisme, et c'est dans l'interaction, c'est dans la capacité à être à l'écoute, à nouer des liens, à interagir avec un certain nombre de gens, mais je ne crois pas que tout le monde puisse devenir journaliste, comme je ne pense pas que tout le monde puisse devenir boulanger ou cordonnier. Je ne crois pas. J'ai peut-être tort, tout est discutable, mais je pense que ces dernières années, il y a eu des mots qui ont été énoncés avec une force absolument stupéfiante en logique d'autoprophétie, comme s'il suffisait d'annoncer un avenir pour être certain qu'il va s'écrire. Je crois aujourd'hui que le journalisme a besoin de continuer à se remettre en question. Vous savez, vous parliez des débuts de la presse ou des transformations de la presse. Au début, lorsque Girardin crée la presse, il crée une formule révolutionnaire, hein, puisqu'il introduit la publicité. Auparavant, il y avait un petit peu de publicité dans les journaux, mais très peu. C'était essentiellement de la publicité des libraires ou de librairies. Girardin va ouvrir cette page. Cette page de la publicité avec les romans feuilletons, avec un certain nombre d'autres choses. Mais de la même manière que la presse a pu être transformée à une époque, il est aujourd'hui, je crois qu'il est nécessaire de s'interroger, est-ce que la presse ne doit pas se retransformer à nouveau ? Se retransformer, ça ne veut pas dire se réinventer, parce qu'on ne réinventera jamais la logique du journalisme. Mais en tout cas, se retransformer dans la proposition, dans un certain nombre d'équilibres. Je pense que toutes ces questions-là sont aujourd'hui sur la table, avec à chaque fois l'idée qu'est-ce qui permet aujourd'hui de faire du journalisme, non pas que pour les journalistes, parce que là aussi, ce débat me fascine, comme si c'était une logique de corporation, mais pour que les journalistes puissent le faire, au nom des lecteurs, des téléspectateurs et des auditeurs. Et rétablir ce lien est quelque chose d'essentiel. Et ce lien-là, on le sent par moments un peu rompu, un peu fragmentaire, un peu perdu, peut-être.
Moi, je trouve ça super ce que vous dites sur la valeur du journalisme. Effectivement, ça, c'est fondamental et c'est quelque chose, effectivement, ça, c'est un travail essentiel qui coûte beaucoup. Et j'ai en tête cet exemple extraordinaire de ce grand reporter américain qui était Joseph Mitchell, qui pendant 30 ans a fourni des reportages extraordinaires au New York, à plusieurs journaux, l'Evening Standard, mais surtout au New Yorker. Il faisait des reportages merveilleux. Et puis à un moment, il n'y arrivait plus. Il n'arrivait plus à écrire parce que c'était dur. Et pendant 30 ans, le journal lui a payé son salaire alors qu'il n'arrivait plus à sortir un livre. Et pourquoi ? Parce que même s'il n'y arrivait pas, son travail avait tellement de valeur, il était tellement important qu'un journal pouvait considérer ça comme quelque chose d'important. Ce travail-là, effectivement, c'est aussi pour grande partie le travail du reporter. Quoi.
Mais j'ai l'impression qu'on aborde quand même aujourd'hui, je parlais du cas de Mediapart, il y a quand même un mouvement qui est en train de s'opérer vers ce nouveau marché finalement entre les journaux qui soient imprimés ou pas et leurs lecteurs, un nouveau contrat qui est on ne vit que de nos abonnés. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous voulez faire avec Hebdo, c'est ce que nous on tente de faire avec Les Jours, c'est ce que fait Mediapart et tous les grands journaux. Je vois les chiffres d'abonnés numériques du New York Times, du Washington Post qui explosent, où aujourd'hui les abonnés numériques représente plus de revenus que la publicité. On a quelque chose d'un peu plus vertueux qui se met en place, me semble-t-il.
Et tant mieux, d'autant que récemment encore, on a vu Bernard Arnault punir Le Monde, retirant 600 000 euros de budget publicitaire parce que son nom avait été évoqué dans les histoires d'évasion fiscale. Donc on voit bien comme la publicité, et en plus dans la presse, est confisquée par des groupes puissants du luxe, etc., Que les journaux soient entre ces mains-là, c'est vraiment angoissant. Donc si les choses se réorientent de cette manière-là, et si le lecteur le comprend et veut bien investir, notamment parce que je vois bien les plus jeunes qui sont nés justement avec cette idée de la gratuité, avec tout ça, aujourd'hui, ils ont des budgets restreints, mais en plus, ils se sont habitués à ce genre de choses.
Eh bien non.
Donc, non,
la moitié
mieux.
Des abonnés des jours ont moins de 35 ans.
C'est bien, alors c'est rassurant.
On n'a pas encore suffisamment. Peut-être qu'on veut poursuivre cette conversation agréable, certes, mais avec vous tous, si vous avez envie de nous poser des questions. Je crois qu'il y a un micro du côté de Christine. Pas du tout. Ça vous allez ou de.
Merci. Bonsoir. Merci pour votre exposé brillant. Je travaille pour une chaîne d'infos. On continue. Et donc, à ce sujet, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui est devenu caduque, la chaîne d'information en continu, au regard de la distance qu'il peut y avoir, donc ça je rebondis sur ce que vous avez dit, monsieur Saint-Exupéry, la distance qu'il peut y avoir entre une chaîne d'info et ses auditeurs, son audience, et aussi peut-être parfois la pauvreté qu'il peut y avoir dans la narration.
Moi, je me suis toujours demandé, j'ai voulu faire ce calcul, mais j'ai jamais réussi à le faire, pour savoir combien il y avait d'informations traitées sur, disons, BFM TV et un quotidien. Je pense qu'une chaîne d'info doit tourner avec peut-être 10 infos par jour, et un quotidien doit en avoir 80 faciles. J'ai du mal à mesurer, mais je pense qu'on est dans ce genre de rapport-là. Mais après, est-ce qu'on a tendance à dire que la chaîne info est caduque, mais je ne sais pas ce qui remplacera ce côté, ce truc qui fait que quand il se passe quelque chose, on va aller se coller peut-être comme des idiots, mais devant l'événement en train de se faire, c'est cette petite vitrine en direct sur ce qui se passe.
Moi, ce qui me gênerait, c'est s'il n'y avait plus que des chaînes d'infos. C'est ça qui serait gênant. Bon, ce n'est pas le cas. Après, qu'il y ait une chaîne d'infos, deux chaînes d'infos, je ne vois pas où est le problème. Encore une fois, on ne peut pas articuler les choses en noir ou en blanc. Il faut raisonner en termes de propositions générales, complètes. On vit dans un monde aujourd'hui où il est parfaitement légitime, à mon sens, d'avoir une chaîne d'infos en continu, même si on a le droit de la critiquer, de la trouver bien, pas bien, qu'importe. Hein, ce n'est pas la question. Mais une chaîne d'infos en continu, et puis sur d'autres chaînes, d'autres propositions. S'il n'y avait que du reportage, ça serait insupportable. S'il n'y a que du continu, c'est insupportable. Et c'est une affaire d'équilibre. Donc là, moi, je n'ai pas de réponse à votre question. Après, si vous travaillez dans cette chaîne d'information et si vous avez le sentiment que ça manque parfois un peu de distance, etc., ben, c'est peut-être que vous aspirez vous-même à aller voir ailleurs. Et pourquoi pas ? Il n'y a pas qu'un univers journalistique. C'est ça qui est important, à mon sens. Et ces équilibres entre les univers journalistiques, ben, voilà, on parle de l'espace médiatique, et c'est cet espace-là qui nous permet à chacun de choisir et de trouver notre miel. Je n'aime pas beaucoup les chaînes d'information, par exemple, en continu. Ça ne m'empêche pas de les regarder de temps en temps. Je veux dire, c'est pas non plus, rien n'est exclusif ou antithétique en permanence. J'adore le reportage, je ne lis pas tous les reportages, je ne peux pas. Voilà. Et chacun, je crois, chemine un peu en piochant ici, de là, etc. Et se constitue aussi sa grille et ses centres d'intérêt. Et la richesse de la proposition, quelle qu'elle soit, est quand même quelque chose de fondamental.
Mais d'ailleurs, il y a eu le succès de Cache Investigation, toutes ces émissions qui sont des enquêtes en profondeur, un peu choc, mais sont peut-être déjà une réponse de la télé à ce trop-plein au flux continu des chaînes infos. C'est-à-dire que c'est la télé, tout à coup, qui se met à jouer un rôle important en prime time d'enquête et de dénonciation et de mise en danger. Donc déjà, la télé a commencé à répondre à cette espèce de diktat, de trop grande, d'omniprésence des chaînes d'infos.
C'est juste, mais ça va dans le sens de ce qui a été dit. Je pense que le journalisme nécessairement a besoin d'avoir des échelles de temporalité différentes. On a besoin effectivement de penser la relation à l'information sur des épaisseurs temporelles différentes. L'épaisseur de l'immédiateté, elle a sa vertu. Elle a aussi ses défauts, bien sûr, mais voilà, il le faut. De la même manière, il y a des temporalités moyennes, il y a des temporalités plus longues qui sont celles du reportage, mais je crois que c'est cette variation des échelles temporelles qui permettent effectivement de donner à l'activité journalistique tout son intérêt. Et ce n'est pas dans stigmatiser une au détriment d'une autre, etc. Il faut ces différentes échelles temporelles. Et d'une certaine manière, on les a toujours eues. Quand vous prenez des quotidiens de 1900, de 1930 ou de 1980, vous voyez bien que dans le feuilleté du journal, il y a à la fois des dépêches, des dernières minutes, des trucs plus longues. Voilà, il faut arriver à articuler ces relations différentes aux temporalités.
Et moi, j'aime bien le journaliste profond. Et il faut savoir que la première chaîne info de télé qui s'est créée en France, c'était LCI. Et la volonté très claire des dirigeants de TF1 à l'époque, c'était de se dire, on a le journal de 20h, le journal de 13h pour recevoir des hommes politiques, mais il n'y a pas assez de place dans ces journaux. Et LCI était aussi une réponse à ça, pouvoir recevoir tout un tas d'invités politiques de second plan aussi. Et c'était aussi un outil d'influence qui est difficilement remplaçable. Et je ne suis pas sûr que de ce côté-là, que Vincent Bolloré va se débarrasser aussi vite de CNews, sa chaîne d'infos qui traite si mal par ailleurs, du fait de cette petite influence que ça a. Question tout là-bas.
Bonsoir, je suis étudiante en journalisme et je me posais une question. Vous avez dit que le travail du journaliste a une valeur, donc ça je suis complètement d'accord. Par contre, par rapport à l'accès à l'information pour les plus démunis, comment on fait en fait dans une démocratie? L'information a de la valeur démocratique en fait. Il faut que tout le monde ait accès à une information de qualité. Comment on fait? Voilà.
C'est effectivement une vraie question. C'est aussi l'importance, je trouve, du débat actuel ou du débat qui est en train d'être actuellement sur le rôle de France Télévisions et de l'audiovisuel public. qui sont des médias gratuits, si ce n'est la redevance. Effectivement, moi, les jours, on a un tarif pour les gens qui ont moins d'argent, mais c'est 5 euros par mois. Et les gens nous disent 5 euros, c'est beaucoup. Et d'où l'importance, finalement, de cette investigation sur France Télévisions, sur le service public en général. Ça rend encore plus aigu ce problème que vous évoquez là. Après, parce qu'on sait que les médias qui sont financés par les publicités, ce ne sont pas eux. S'ils peuvent être gratuits, ce n'est pas là-dedans que je vais m'informer. Je ne m'informe pas dans le gratuit de Vincent Bolloré ou dans 20 minutes. Encore qu'il y a un peu plus de journalisme là-dedans. Mais...
En plus, je pense qu'il y a une époque où des gens qui avaient très peu de revenus considéraient que c'était important de lire le journal de toute façon, quoi que ça leur coûte. Donc, acheter un journal de temps en temps, pas tous les jours, si on part, c'est pas... Enfin voilà, c'est pas impossible. Un hebdo de temps en temps, Le Monde une fois dans la semaine. C'est aussi le rapport à la valeur, justement, cette phase qu'on est en train de quitter de la gratuité a laissé dans les esprits l'idée que c'est de toute façon trop cher. Mais on peut acheter un journal de temps en temps, sans que ça grève un budget même minime.
Et c'est quelque chose qui donne une pédagogie. C'est quand on explique aux gens combien coûte une information à produire, à savoir que si c'est un grand reportage, ça faut payer l'avion, la personne qui va être à l'hôtel pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines, qu'il faut payer un fixeur, un chauffeur, que derrière on va payer la personne qui relit l'article, celle qui va éditer l'article. Et voilà, je pense qu'en faisant la pédagogie de l'information payante, on explique aussi à quoi on sert.
Juste un petit point, mais j'avoue, je comprends pas très bien la question, en fait. Et pourquoi je la comprends pas? Parce que j'essaie de visualiser un petit peu ce qu'il y avait derrière la question. Vous posez la question, vous dites la valeur dans le journalisme, très bien, mais quel est l'accès possible pour les plus démunis si ça a de la valeur? Et j'essayais de réfléchir aux différentes configurations. Les logiques Internet, mais il faut un ordinateur, il faut de l'électricité, il faut un abonnement. Ça coûte très cher. J'y peux rien. C'est technique. Hein, voilà. La radio, formidable. Deux piles, un petit poste, c'est presque rien, c'est tout temps, c'est tout terrain, ça marche partout. C'est incroyable, la radio. Le journal papier qu'éventuellement on peut s'acheter une fois de temps en temps, le jour où on a un petit sou ou un petit peu d'argent, peut-être. Mais dès que je sors de ces deux postulats, et dès que je rentre un peu dans tout ce qui est en train de se construire aujourd'hui, je me dis une chose toute bête, mais en fait, et je ne me l'étais jamais posé comme ça, mais en fait c'est incroyable parce que ça... coûte cher derrière, ce que ça suppose, parce qu'il faut, si je suis démuni, il faut que j'ai de l'électricité, il faut que éventuellement j'ai un ordinateur, que j'ai une borne, que j'ai des abonnements, c'est extrêmement lourd. Donc la réponse à votre question, je ne sais pas, il y a des bibliothèques publiques, il y a des centres de documentation, il y a plein d'endroits où on peut trouver à se nourrir de cette manière-là, mais... Est-ce que c'est vraiment la question de fond, cette idée de coût possible? Encore une fois, la radio, ça ne coûte rien, pour ainsi dire, rien. Le papier, ça coûte rien, c'est disponible dans les bibliothèques. Donc, est-ce que c'est vraiment la question de fond? Voilà, c'est un peu ce qui me venait à l'esprit, et je n'arrivais pas à trouver de réponse évidente.
Bonsoir et merci beaucoup pour la conférence. Ma question s'adresse plutôt à Judith Pérignon concernant le journalisme politique. Les journalistes politiques aujourd'hui sont ceux qui sont sans doute les plus critiqués, dans lesquels on a le moins confiance. Est-ce que selon vous cette perte de crédibilité est justement due à peut-être un déficit de reportage politique? Et le cas échéant, pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à faire du bon reportage politique?
Ça fait longtemps que je pense le journalisme politique est en crise. C'est un journalisme en fait, et notamment, enfin donc moi j'ai fait ça beaucoup dans les années 90. On vous demande d'être au plus près des hommes et des femmes politiques pour qu'ils vous parlent, pour avoir des infos en fait. Hein. Mais cette proximité ne veut pas dire je cherche le mot, mais que vous êtes trop près d'eux, vous êtes complètement complice, connivence, voilà, ne veut pas dire connivence, c'est juste... Mais quand, là où il y a quand même danger de cette proximité, c'est que vous vivez avec leur agenda en tête, leur façon de voir la société. Et donc le journalisme politique, il est important, mais il s'est complètement déconnecté en même temps que les politiques de tout ce qui se passait dans la société. Donc à un moment, dans les journaux, je me souviens à Libé, qui était un journal très politique, donc avec une culture très politique, Né 68, où on donnait beaucoup de place à la politique, au moindre petit jeu d'appareil OPS, etc. À un moment, il y a eu des sondages, comme ça, il y avait des sondages chez les lecteurs, et pour la première fois, on voit un décrochage chez les lecteurs qui commencent à trouver que la politique à Libé, ça devient trop politicien, et on est au début des années 90. Et c'est un signe parce que le lectorat de Libé est quand même un lectorat très politisé. Et on a commencé à discuter entre nous de savoir comment réagir. Et on a ajusté des choses, mais moi je me souviens avoir dit dans cette réunion, mais le nombre d'articles que j'ai écrits et que je ne lirai pas. parce qu'il y a un moment, je commençais à sentir que je m'enfermais dans ce petit monde. Et quelque part, j'aspirais à autre chose. Je sentais bien qu'il se passait des choses. La consécration de cet échec a été ce premier tour de 2001. Le Pen arrive au second tour de la présidentielle. Et le journalisme politique n'a rien vu venir parce qu'il a vécu, non pas en connivence, mais trop près des enjeux politiciens. Donc je pense qu'il y a des choses qui ont été rétablies par endroits, pas toujours. Je ne nourris pas du tout ce procès encore de la connivence. Hein. C'est juste quelque chose qu'on vous demande et que vous faites. Il faut, moi je serais pour reprendre beaucoup, faire beaucoup moins de politique, en fait. En faire, parce qu'il faut en faire, il faut traiter le pouvoir. Je veux dire, Macron, il est arrivé au pouvoir en dézinguant tout ce qui existait déjà. Maintenant, il dézingue les journalistes politiques parce qu'il ne recrée pas cette proximité avec eux que créait un François Hollande qui était vraiment l'ami des journalistes. Donc, retrouver la bonne distance. Et je pense que le journalisme politique ne doit pas rester journaliste politique peut-être toute sa vie. Il doit se confronter à autre chose. Parce que quelque part, sur les sujets économiques, sur les sujets immigration... Il ne confronte pas l'homme politique. Les journaux étaient divisés en rubriques. Alors, il y avait le journaliste politique, le journaliste société qui s'occupait de l'immigration, le journaliste... Et quand on allait interroger l'homme politique, ben, il y a celui qui s'y connaissait en immigration, celui qui s'y connaissait en économie. Le journaliste politique, lui, il connaissait les combines, les arrière-pensées, tout ça. Mais au fond, on s'est rendu compte que ça n'éclairait plus grand-chose des enjeux de notre époque, d'autant que les politiques ont énormément perdu de leur levier. Donc, je pense qu'il est temps de revoir le suivi de la politique, quoi, qu'il y ait moins de journalistes politiques et des journalistes plus transversaux qui puissent confronter l'homme politique au sujet de société.
D'ailleurs, je pensais à votre question pendant que je lui ai parlé. Je ne sais même pas ce que c'est le reportage politique. Je ne trouve pas d'exemple de reportage politique. Moi, j'ai souvent voulu faire de la politique, m'intéresser à la politique. Et je me souviens, j'avais fait ça à l'occasion de la dernière présidentielle, où aller plusieurs fois à des meetings, où ça allait très vite, finalement, de se décaler un peu des autres journalistes, parce que on entre dans un meeting, il y a tout de suite un carré presse qui est bien organisé avec du Wi-Fi, etc. Et il y a vraiment un carré qui est réservé à la presse avec des petits rubans qu'on ne doit pas franchir. Et dès qu'on sort de ce petit carré-là, ben on parle avec des militants. On voit que c'est gênant parce que quand on va à un meeting du Front National, ils n'aiment pas qu'on parle avec les militants. Mais tout de suite, on arrive à obtenir après un petit décalage. Après, je ne vais pas jeter l'opprobre sur... mes collègues qui étaient dans le petit carré, mais parce qu'il fallait, eux, qu'ils ne s'intéressent qu'à la parole qui était donnée par l'homme politique au centre de la scène, et qu'ils récupèrent sa phrase, sa déclaration. C'est ça dont avait besoin le journal de chacune de ces personnes-là.
Le journalisme politique, c'est le reportage politique. Bon, il y a suivre l'homme politique. Donc, il n'y a pas que le meeting, il y a parfois toutes ces tournées électorales. Alors, c'est une espèce de caravane un peu compliquée, où le plan de route est quand même tout va très vite. Et vous glanez deux, trois choses. Vous rentrez dans une espèce de... La France elle se passionne pour les élections. Donc c'est quand même intéressant à raconter, mais il faut trouver un point de vue, il faut trouver quelque chose. Je pense que suivre Macron en Afrique, la question est comment on arrive à sortir de l'agenda qu'on vous a imposé. On voit bien que tout ce qui a été retransmis était plutôt à la gloire de Macron dans les télés. Il y avait sûrement des choses qui le mettraient moins en valeur. Il y a un autre reportage politique qui est intéressant, c'est quand on se baladait, on allait prendre un peu le pouls de certaines régions, le pouls de certaines villes. Alors là, on n'était pas dans le sillage de l'homme politique, il n'était pas là. Et on essayait après des élections ou juste avant, d'essayer d'aller voir les gens. Moi, je me souviens d'avoir passé 3 heures dans le salon, c'était à Cavaillon, avec des gens qui s'apprêtaient à voter Front National pour la première fois et qui étaient des enfants d'ailleurs d'immigrés italiens, espagnols, qui ne supportaient pas cette jeunesse maghrébine de la société, de la cité d'à côté. Et me mettre en discussion longtemps avec ces gens, c'était intéressant parce que ça me bousculait moi aussi dans mes schémas. C'est du reportage politique. Mais finalement, voilà, c'est encore une fois quelle distance on prend par rapport à l'agenda, aux enjeux, à l'homme politique lui-même, même si on lui tourne autour.
Je vais juste dire un tout petit mot parce que je vous écoute et cette question m'interroge un peu. Je comprends bien sûr tout ça, mais j'ai un peu le sentiment que le reportage, au cœur de sa nature, ça suppose quelque chose qu'on a du mal à trouver en politique. Je pense que ça suppose un bon reportage qui est une énigme quelque part, qui est un truc qui pose problème, un truc dans lequel on a envie de rentrer, qu'on a envie de creuser, qui soit quelque chose qui résiste à la compréhension. Et à partir de là, la démarche du reporter, c'est une démarche immersive. Il faut qu'il rentre dedans, qu'il s'immerge dedans. Or, dans la manière dont fonctionne aujourd'hui la vie politique, il est quand même très, très horizontal. Je trouve que parfois on manque, et c'est peut-être ça que vous voulez dire un peu, on manque de cette plongée verticale que le reportage dans son essence propre suppose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à résoudre dans un reportage. Il y a un problème à résoudre. Il y a quelque chose et suivre un homme politique, c'est pas vraiment un problème à résoudre.
Il y a reportage, mais il y a enquête aussi. L'enquête permet de raconter aussi la politique. Il y a des gens qui émergent en politique et ça demande des enquêtes. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des réseaux, il y a des choses comme ça qui pèsent énormément sur notre vie publique, politique, et le journaliste politique le fait parfois très bien.
Mais ça suppose une immersion profonde et lourde dans la question à résoudre ou dans le
et donc un carnet d'adresses, et parce que ces gens vous parlent parce qu'ils vous ont vu, ils vous ont revu dans les meetings, ils vous ont vu dans les réunions et ils commencent à vous parler. Nous, si on a pu faire le Fouquet dont vous parliez, c'est parce qu'on avait été journaliste politique et que les gens nous parlaient avec le off, avec tout ce que vous voulez. Alors je sais pas si on appelle ça enquête ou si le reportage y va, hein. Nous on appelle plutôt ça enquête, mais il y a une nécessité d'interroger quand même l'ascension politique, voilà, puisque de certains et de tout le monde d'ailleurs.
Merci. Bonsoir. J'aimerais aborder avec vous la question des pigistes, ceux qui partent souvent avec leurs propres moyens, qui font du reportage sur le long terme, mais qui utilisent leur propre financement. Est-ce qu'on peut imaginer un soutien de la part des rédactions, une meilleure collaboration? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous travaillez plus? Est-ce que vous voudriez travailler avec plus de pigistes ou moins? Qu'est-ce que vous en pensez?
Plus ou moins de pigistes Je ne sais pas, c'est une drôle de question. Nous, on a aussi fondé Les Jours pour essayer de traiter bien les gens, de traiter bien les pigistes, de traiter bien les photographes. Alors, on n'arrive pas encore à payer aussi bien les gens qu'on voudrait, parce que c'est difficile de monter un média et ça demande beaucoup d'argent. Mais pour moi, un pigiste, c'est un collaborateur comme un autre. Je vois pas trop finalement. Pour moi, si un pigiste est quelque part sur une zone dangereuse, je sais pas quoi, je le considère, enfin il est aussi soutenu qu'un collaborateur permanent.
Mais peut-être que vous pensez à ceux qui font leur sujet et qui essaient de les vendre après, quand vous parlez de leurs propres moyens, c'est ça, non? Oui, donc moi ça je connais pas, parce qu'il y a beaucoup de pigistes qui, enfin moi maintenant je suis pigiste, quand je pars en reportage, le journal me paiera l'article plus tard, mais me paiera l'hôtel ou le billet d'avion, voilà.
Donc. Nous, on essaie de payer, par exemple, l'enquête, plus que payer juste l'article, on essaie de payer l'enquête. Alors, on ne peut pas payer 3 mois d'enquête aujourd'hui à un pigiste, on n'en a pas les moyens, mais c'est de toute façon un problème douloureux, les pigistes. Donc, des gens qui travaillent à l'article, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces termes-là. Patrick, toi qui travailles plein de pigistes.
Oui, non, mais c'est l'éternelle question, parce que la condition de pigiste a toujours été une condition difficile, toujours. La condition de pigiste, le problème de la condition de pigiste, c'est que bon, il y a un certain nombre de gens qui, à un moment donné, s'installent bien dans cette condition-là, parce qu'ils trouvent un certain nombre d'équilibres, et d'autres qui n'y arrivent pas. Oui, de la même manière, tout le monde, tous les journalistes n'arrivent pas à intégrer les rédactions. Oui, voilà, je ne peux pas le dire autrement, parce que je crois que c'est juste sincère, le journalisme est un métier difficile. C'est un métier difficile. Les gens qui sont journalistes y ont consacré beaucoup d'énergie, ils consacrent beaucoup d'énergie, qui inspire un certain nombre de gens, mais tout le monde ne pourra pas être journaliste. Ça, c'est clair, et je le regrette, hein, parce que ça serait beaucoup plus facile de dire « mais c'est formidable, les pigistes vont vivre très bien, parce que demain, tout sera formidable et tout sera très bien ». Ça n'est pas le cas, ça n'est pas la réalité, et ça ne pourra pas être la réalité. Il y aura toujours, à un moment donné, un goulot d'écran-anglement, parce que tout le monde ne peut pas être journaliste, et il faut le savoir, je crois que c'est comme ça. Alors maintenant, la condition de pigiste s'est beaucoup améliorée, il y a quand même un certain nombre de garde-fous. C'est certainement pas le Pérou, et personne ne pensera que c'est le Pérou. C'est mieux qu'avant. C'est loin d'être l'âge d'or.
Bonsoir. Je lis le retour de l'âge d'or du reportage. Et je me disais, peut-être qu'un jour prochain, on dira la revue. Je parle de 21. On dira la revue d'or du reportage. Peut-être. Quand 21 est sorti, ce qui m'a frappé, c'est l'ouverture. Et puis, m'est venu en tête tout de suite le fait que c'est un objet que je pourrais transmettre. Je l'ai associé dès le début au reportage. Et donc la question que je pose, c'est il y a sans aucun doute, on pourrait faire, oui, il y en a eu peut-être, une histoire des supports du reportage, et où 21 s'inscrit dans ce contexte.
Oui, si on regarde dans l'histoire de la presse, il y a eu des titres formidables. Vous ne ferez pas de rapport direct avec 21, mais à mon sens, il y a un état d'esprit. Hein. Je parle de journaux comme Réalité, Vue, essayez de regarder Réalité, plongez-vous dans la bibliothèque publique ici, regardez le travail que faisait Réalité. Je suis désolé, je suis un petit peu fatigué, j'ai oublié les dates, mais Vue, regardez ce que faisait Vue, l'innovation qu'avait Vue. Il y a eu des choses absolument incroyables. Et effectivement, 21, sans être dans le sillage d'eux, fait partie de cette presse-là. Et cette presse-là a toujours existé. Simplement, il y a eu des moments où elle a décollé, il y a des moments où c'était plus dur. On parlait d'Albert Londres tout à l'heure, qui est la figure tutélaire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, lorsque Albert Londres publie le bagne dans François, les gens font la queue le matin pour acheter François. Mais la queue de rue Réaumur devant François, c'est la queue. Dans les rues de Paris, on crie le bagne. Enfin, je ne sais pas ce que criaient les crieurs, mais c'est le bagne, Albert Londres, et les gens sont là, donnent leur sous, etc. Il y a cette espèce d'excitation, de curiosité, de frénésie, au joli sens du terme. Hein. On n'est pas dans l'adulation, on n'est pas à un concert en sortant le briquet. Non, on est curieux, on a envie de repartir, de rentrer dans cet univers-là, de rentrer dans l'histoire que va raconter Albert Londres. Et là je cite ces pages-là, mais il y en a eu d'autres. Et ça, c'est la presse. C'est la presse, c'est une des dimensions de la presse. Et par moments, moi, je suis quelqu'un d'assez insatisfait par moments, mais j'ai un sentiment de satiété, une société de satiété. une société où quelque part, par moment, où on a peut-être plus faim. Et moi, ça m'interroge, je ne sais pas, mais moi, j'ai faim tout le temps. J'ai faim. Et par moment, je sens, je m'interroge, hein, je ne dis pas, mais au bout des doigts, je me dis, mais c'est curieux. Il y a des moments où on pourrait se dire qu'on n'a presque pas faim. On n'est peut-être pas curieux de ce qui se passe là. On n'est peut-être pas curieux de ce qui est là. Je ne sais pas quoi. Il y a des moments où je m'interroge. Est-ce que nous ne sommes pas aussi dans un univers de société, de satiété, d'abondance à force? Est-ce que nous n'avons pas perdu par moments un peu l'appétit? Je ne sais pas.
Il y a dans la question de monsieur quand même quelque chose d'assez intéressant. Sur l'évolution des supports... et que, qui fait que 21, ce n'est pas exactement ni le petit parisien d'Albert Londres qui était un quotidien, ni Vue Réalité ou d'autres qui étaient des hebdos. Et quand même, si on regarde ça sur un peu plus long terme, on va voir le grand reportage. Et ça, à mon avis, ça a dû. Enfin, je n'ai pas d'explication, mais ça a de la signification. Le grand reportage qui a progressivement versé du quotidien, où il est né, vers l'hebdo, où il a prospéré. Puis vers un espèce de déficit là dans la seconde moitié du XXe où il passait plutôt vers la radio ou vers la télévision. Et on le voit réapparaître vers un format qui est celui que 21 et puis d'autres dans son sillage ont mis en œuvre, qui est ni le quotidien, ni l'hebdo, ni... Enfin bon, aujourd'hui vous retournez à l'hebdo, mais c'est l'histoire continue. Mais il y a quand même quelque chose là, et le fait que le grand reportage reparte à l'assaut de son histoire avec un format comme 21, je ne sais pas ce que ça nous dit, mais ça nous dit quand même quelque chose sur l'évolution du rapport entre le reportage, la presse et le lectorat. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant.
Je crois qu'il ne faut pas qu'on cantonne le reportage au papier. Alors je vais encore prêcher pour ma paroisse, pardon, mais il se trouve qu'on n'est pas les seuls. De toute façon, il y a les jours, mais d'autres sites d'infos font ça. Nous, quand on a quitté Libération pour lancer les jours, d'emblée, on ne s'est même pas posé la question du papier ou pas du papier. Pour nous, c'était sur Internet. Ce qu'on a voulu faire, nous, c'est apporter sur Internet les codes de la presse écrite, de la presse papier, de tout ce qu'on avait pu apprendre à Libération, de jouer avec l'information, d'avoir de la photo et beaucoup, beaucoup de photos. J'avais un super diaporama, mais je ne sais plus comment vous le lancez, pour montrer qu'on peut avoir beaucoup de photos sur Internet, qu'on peut faire de cet objet-là aussi un objet de reportage qui accueille du reportage.
On va prendre une dernière question.
Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure de la subjectivité. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous reproche souvent, les journalistes. Moi, je travaille par exemple dans une radio. C'est vrai que le reportage, c'est 1 minute 15 maximum, enrobé. C'est compliqué d'être objectif. Et il y a une espèce de crise de confiance des... Je ne sais pas si c'est vraiment dans la société française, des Français, dans les journalistes. Et on nous dit, mais à chaque fois, c'est subjectif. Hein. Donc comment faire pour rester quand même objectif, puisqu'en tant que journaliste, je pense qu'on se doit de rester objectif, et en même temps de garder notre subjectivité. Comment trouver le bon équilibre entre les deux?
Moi, je ne suis pas sûr qu'on doive être objectif. Enfin, je ne sais pas ce que c'est l'objectivité. S'il s'agit de dire... il y a 500 000 personnes à cette manifestation. Oui, il y a 500 000 personnes à cette manifestation. On ne va pas dire il y en a 10 000, si vous voulez. Mais pour moi, ça n'existe pas. Et c'est d'où l'importance de ce que disait Patrick, de dire d'où on parle aussi. De se planter soi-même un peu dans ce décor-là. Pas forcément en disant je, pas forcément en apparaissant à l'écran, comme les journalistes de télé ont tendance à le faire beaucoup. Mais en disant d'où on parle, et puis en prenant aussi cette parole de journaliste pour ce qu'elle est, on n'a pas la vérité absolue. On est aussi que des, on parlait de cordonniers et de travailleurs. On est aussi des travailleurs et on peut aussi se tromper dans ce qu'on fait. Je trouve ça crucial. On n'a pas une parole divine, mais l'objectivité, moi, j'y crois pas. La vérité des faits, d'accord, mais l'objectivité, non.
Oui, je pense qu'il faut faire ça avec avec honnêteté en tout cas, et puis sur un sujet là où il peut y avoir des sujets plus polémiques, évidemment, faire parler plusieurs points de vue, Mais au fond, ces points de vue, après, c'est vous qui, dans votre papier, les orchestrerez. Donc, la subjectivité, elle sera toujours là. Le tout, c'est d'être honnête, quoi, et de le faire. Il y aura toujours, effectivement, on est dans un moment de suspicion. Donc, et la suspicion, on le voit bien dans les commentaires. Quand vous regardez les commentaires sous les papiers, sur les sites d'infos, enfin, c'est souvent du grand n'importe quoi, une espèce de violence. Et il y a des gens, on ne peut rien pour eux, quoi. Avec toute l'honnêteté et tout le travail qu'on y mettra, on ne les convaincra pas. Donc, si vous faites ça avec honnêteté, professionnalisme et votre regard, votre subjectivité, c'est bien.
Être subjectif, c'est pas donner une opinion. Et souvent, les gens mélangent un petit peu. C'est faire des choix. C'est faire des choix d'auteur. C'est-à-dire, vous allez parler de ceci plutôt que de cela. Mais lorsque vous allez parler de ceci plutôt que de cela, vous n'êtes pas en train de dicter une opinion au final. C'est juste ça. Qu'est-ce que c'est que le journalisme à la base? Est-ce que c'est vouloir apporter des réponses aux questions? Ou est-ce que c'est parvenir à susciter les bonnes questions? Et après, il appartient au lecteur de trouver, ou au lecteur, à l'auditeur, ou à celui qui regarde l'écran, de trouver ses réponses. Moi, je pense que le journalisme, c'est parvenir à susciter les questions. Je crois que tout est là. Et les réponses, elles appartiennent à ceux qui sont au bout de la chaîne. Mais elles n'appartiennent pas aux journalistes. Moi, je ne crois pas qu'un journaliste ait à dire ce qu'il pense d'eux. Mais en revanche, qu'il suscite les questions, là, c'est le cœur de l'acte journalistique. Et ça peut, et le reportage permet, et on en revient, le reportage permet de susciter un certain nombre de questions au travers d'outils qui sont de nature subjective, mais qui ne visent pas à donner une opinion.
Alors, il nous reste un petit peu de temps, donc je crois qu'il y avait peut-être une dernière question, voilà.
Bonjour. Vous l'aviez évoqué très succinctement tout à l'heure, mais c'est le journalisme à la première personne. Je me posais la question, notamment avec toute la culture des podcasts à la radio qui est en train de se développer. Si pour vous, justement, cet âge d'or du reportage pouvait passer par le reportage à la première personne.
C'est qu'un peu, enfin là je réponds tout de suite, hein, je sais pas, mais c'est un peu dans mon esprit comme toutes les logiques de système. Une logique de système est vouée à disparaître, enfin c'est pas efficace. Tout faire au jeu, c'est un monde insupportable, quoi. Il y a beaucoup d'ego qui viennent clamer leur jeu. Non, le jeu, c'est un procédé qui doit être utilisé. Et si l'on est dans l'univers du journalisme, le jeu, c'est un jeu intercesseur, c'est-à-dire c'est un jeu qui doit, l'usage du jeu en tout cas, doit permettre d'ouvrir sur le monde. C'est pas le jeu de l'intimité, c'est pas le jeu du moi, je me mets en scène, c'est un jeu qui permet d'ouvrir sur le monde. Et ça, donc là, on rentre dans une configuration où il est utilisable, mais il n'est pas forcément nécessaire. Il y a plein de moyens de le signifier. En revanche, prenez par exemple des dialogues. Dans un dialogue qui pose des questions, on le comprend tout de suite et il n'y a pas besoin de dire « je pose une question ». Enfin, c'est un exemple un petit peu bêta, mais je crois que voilà, le jeu n'est pas forcément nécessaire. Et la fonction du jeu, quand elle est là, c'est vraiment de permettre d'ouvrir sur le monde, c'est-à-dire d'être dans la position de l'intercesseur. Pendant très longtemps dans la presse, on a essayé de masquer ça avec le « on ». En France, on utilisait le « on ». D'autres, en Belgique, on utilisait plutôt le « nous ». C'était un « nous » de majesté, c'était un « nous » étrange. Lorsque le journaliste écrivait « nous », il fallait dire « moi, le journaliste envoyé spécial ». C'est ce que les gens lisaient intuitivement. Accepter le jeu, c'est pas... Voilà, mais dans une manière extrêmement mesurée, bien entendu, à mon sens.
Oui, pas mieux. Nous, au jour, on l'a utilisé un peu naturellement. On s'est mis à travailler très vite sur le 13 novembre. Charlotte Rotman, qui a écrit sur le 13 novembre, habite à 150 mètres du Bataclan, pas plus ni moins près que d'autres. Et on lui a dit, mais écris. On la voyait mortifiée. On lui a dit, mais essaie d'écrire là-dessus. Après tout, c'est ton travail d'écrire là-dessus, d'écrire. essaie de faire du journalisme là-dessus, et très vite elle a dit je, parce que elle allait voir ses voisins, elle allait voir des gens plus ou moins proches du Bataclan, parce qu'elle est allée à des réunions organisées par la mairie, avec des cellules psy. Donc le je était naturel. Après on s'est posé la question au jour, est-ce qu'on dit je? Si je veut dire quelque chose, oui, pourquoi pas permettre d'identifier quelque chose un peu plus, mais surtout pas systématique. On fait pas du. Après, ça devient un truc, quoi. Et c'est pas honnête.
Moi, une fois, j'avais fait pour Marianne un long portrait de Marine Le Pen il y a quelques années, et je l'avais commencé comme ça, même âge, même blue jean que moi. Parce que je voulais raconter, et après j'expliquais, je voulais raconter à quel point la banalisation en fait du Front National. Parce que quand j'ai commencé j'avais après raconté que quand j'ai commencé à Libé, le tout premier truc qu'on m'a confié, j'étais un stagiaire d'été, c'était l'université d'été des jeunes du Front National. Donc c'était dans un château près de la Loire, un vieux truc à Bocassin, un truc de barbouze quoi. Puis comme une idiote, parce que je commençais, je sortais de l'école, j'étais arrivée à 9h alors qu'on n'arrive jamais avec les militants à ce truc-là. Et j'étais un peu effrayée, il n'y avait pas encore un journaliste, il n'y avait que moi, il y avait les militants. Et puis j'ai été accueillie par un monsieur qui s'appelle Roger Olindre, qui était un vieux copain de Le Pen. Et j'avais mon ordinateur avec l'autocollant Libération. Et il m'a dit, cachez ça, ils vont vous mettre dans le lac. Et donc je trouvais que longtemps après, 20 ans après, je me retrouvais dans le bureau de Marine Le Pen, super cool, même âge, même blue jean que moi. Ça montrait comment le temps avait passé, comment la représentation du Front National avait évolué. Et je me suis donc autorisée ce jeu.
Tu l'avais raconté dans ton papier Libé, le coup de Hollande et
Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est vrai que là aussi, je l'avais raconté.
Je crois que le jeu a été important au début du reportage. Je crois qu'il a été un instrument important au premier âge d'or pour permettre effectivement au lectorat qui n'avait peut-être pas l'habitude effectivement d'avoir ce type de récit, de comprendre de quoi il était question, de voir effectivement que c'était le journaliste, le reporter qui était engagé dans une procédure personnelle de production d'un récit qui avait un rapport avec la formation. Il a été également important au même moment, disons, dans la première moitié au début du XXe siècle, pour valoriser la figure, le personnage du reporter qui devait effectivement se distinguer d'autres formes. Mais aujourd'hui, le statut et la nature du reportage est rentré dans, je pense effectivement, que, comme l'a dit Patrick Saint-Exupéry, qu'il y a des tas de manières différentes aujourd'hui qui peuvent faire recours au jeu, mais il n'est plus du tout cette forme d'instrument et d'affirmation du type reportage tel qu'il a pu l'être dans les années 20, par exemple, parce que c'est vrai qu'il disait tout jeu, mais c'était là, si vous voulez, il fallait à un moment donné que le « j'ai vu », que le fameux « j'ai vu », donc puisse être effectivement attesté dans le récit. Donc c'est vrai qu'il y a un usage à un moment très très fort du jeu qui était, comme d'une certaine manière, une forme d'attestation nécessaire d'un nouveau type de journalisme. Aujourd'hui, je crois qu'on en use ou on n'en use pas selon la posture, selon le récit, selon l'inspiration, selon ce qu'on veut montrer. Il n'est plus cet instrument nécessaire du reportage.
Eh bien, merci beaucoup pour ce débat passionnant. Je voulais remercier la salle aussi, je voulais vous remercier d'être venus, remercier nos invités dont vous retrouverez en fait les ouvrages ou les revues à la bibliothèque, donc l'Hebdo, la Revue 21, les ouvrages de Dominique Khalifa, Judith Pérignon, et puis évidemment, on a, pour répondre à la question de tout à l'heure, un abonnement au jour, et il y a énormément d'autres titres de revues consultables donc pour vous gratuitement en salle de lecture. Je remercie également les techniciens de la BPI qui ont rendu cette soirée possible et donc vous pouvez regarder la captation vidéo en ligne. Et vous dire une dernière chose, notre web magazine publiera bientôt un dossier donc sur le reportage, et puis on espère vous revoir le 22 janvier pour la soirée Claude Guibal. Bonne fin de soirée, merci.